Il est 9h10 pour l'instant, ici à Paris. Excellente journée à l'écoute de la Radio du Monde.
Radio G. 101.5 FM.
Court d'idées de lecture, envie de découvrir de nouveaux genres ou juste à la recherche d'un premier pas dans le monde des livres, Voix au chapitre, c'est ta dose hebdomadaire de découverte littéraire. Un livre, un extrait, deux émissions. Juste ce qu'il faut pour réveiller la curiosité et l'envie de tourner les pages. Présenté par Manuela, tous les samedis à 9h10 au 101.5 FM ou sur radio-g.fr. Bon samedi à tous. Merci d'être là pour une nouvelle émission et nouvelle découverte littéraire de Voix au chapitre. Les deux dernières émissions étaient consacrées au roman Dragon et mécanisme d'Adrien Thomas, où nous avions redécouvert un univers déjà exploré par le passé dans mon émission, à travers un nouveau lieu et de nouveaux personnages, un roman jeunesse de fantasy et steampunk. Ce roman avait une couverture verte, ce qui m'amène à quelque chose d'autre, de vert, les arbres. Et aujourd'hui, nous allons explorer les mystères de ces géants verts à travers le livre « La vie secrète des arbres » de Peter Wohlleben. Je pense que le titre en dit plus ou moins assez pour que je ne prenne pas un temps considérable pour l'expliquer. Pour cette première émission, j'ai choisi un chapitre qui essaye de répondre à la question « Les arbres ont-ils un langage ?» Je vous laisse donc avec cet extrait. Bonne écoute sur Radio G. Le langage des arbres. D'après le dictionnaire, le langage est la capacité des hommes à s'exprimer et à communiquer entre eux. Nous serions donc les seuls aptes à parler, puisque la notion ainsi définie se limite à notre espèce. Est-ce bien certain? Pourquoi les arbres ne s'exprimeraient-ils pas? Une chose est sûre, ils ne parlent pas et n'émettent aucun son. Les branches qui craquent quand il y a du vent, le bruissement du feuillage sont des phénomènes passifs, indépendants de leur volonté. Les arbres disposent cependant d'un moyen d'attirer l'attention, l'émission d'odeurs. Les odeurs seraient un moyen de communication? Mais oui, et même un moyen auquel nous reconnaissons une certaine efficacité. Sinon, pourquoi utiliserions-nous du parfum et des déodorants? Notre seule odeur corporelle suffit pourtant à interpeller le conscient et le subconscient de nos congénères. Il existe des personnes que nous ne pouvons pas sentir, d'autres au contraire dont l'odeur nous attire irrésistiblement. D'après les scientifiques, les phéromones présentes dans la sueur joueraient un rôle déterminant dans le choix du partenaire avec lequel nous souhaitons nous reproduire pour assurer notre descendance. Nous possédons un langage olfactif secret, ce dont les arbres peuvent aussi se prévaloir. Dans les années 1970, des chercheurs ont mis en évidence l'étonnant comportement d'une espèce d'acacia de la savane africaine dont les feuilles sont broutées par les girafes. Pour se débarrasser de ces prédateurs très contrariants, les acacias augmentent en quelques minutes la teneur en substances toxiques de leurs feuilles. Dès qu'elles s'en rendent compte, les girafes se déplacent vers les acacias voisins. Voisins? Non, pas tout à fait. Car elles ignorent tous ceux qui se trouvent dans le périmètre immédiat du premier arbre et ne recommencent à brouter qu'une centaine de mètres plus loin. La raison en est surprenante. Les acacias agressés émettent un gaz avertisseur, dans ce cas de l'éthylène, qui informe leurs congénères de l'imminence d'un danger. Aussitôt, les individus concernés réagissent en augmentant à leur tour la teneur en substances toxiques de leurs feuilles. Les girafes, qui n'ignorent rien du manège, se déplacent jusqu'aux arbres non avertis, ou bien elles remontent le vent. Les messages olfactifs étant transportés d'arbre en arbre par l'air, si elles se déplacent dans le sens contraire au vent, le premier arbre voisin n'aura pas été informé de leur présence, et elles n'auront pas à interrompre leur repas. Nos forêts tempérées sont le théâtre de phénomènes similaires. Les hêtres, les chênes, les sapins réagissent eux aussi dès qu'un intrus les agresse. Quand une chenille plante ses mandibules dans une feuille, le tissu végétal se modifie aussitôt autour de la morsure. Au surplus, il envoie des signaux électriques, exactement comme cela se produit dans le corps humain en cas de blessure. L'impulsion ne se propage pas en millisecondes, comme chez nous, mais à la vitesse d'un centimètre par minute. Il faut compter une heure de plus pour que les anticorps qui vont gâcher la suite du repas des parasites soient synthétisés. Les arbres ne sont pas des rapides, et danger ou pas, c'est là leur vitesse maximale. En dépit de cette lenteur, aucune partie de l'arbre ne fonctionne isolément. Un agresseur met les racines en difficulté, l'information gagne l'ensemble de l'arbre et déclenche si nécessaire l'émission de substances odorantes par les feuilles. Pas de n'importe quelle substance. L'arbre les fabrique sur mesure, en fonction de l'objectif à atteindre. Cette aptitude à réagir de façon ciblée l'aide à juguler l'attaque en quelques jours. Parmi tous les insectes qu'il sait reconnaître, un arbre est en effet capable de repérer le chenapan qui s'en prend à lui, car chaque espèce possède une salive spécifique qui permet de l'identifier avec certitude. Le système fonctionne si bien que des substances attirantes peuvent être émises pour ameuter des prédateurs spécialistes de l'espèce qui vont se faire une joie de prêter main forte aux arbres en dévorant les parasites. Les ormes et les pins font ainsi appel à de petites guêpes qui pondent leurs œufs dans le corps des chenilles qui les envahissent. Les larves de guêpes y éclosent à l'abri, puis se développent en dévorant petit à petit la grosse chenille de l'intérieur. Il existe des morts plus douces, je le concède, mais c'est à ce prix que l'arbre, libéré de ses parasites, peut de nouveau croître et embellir. Petite parenthèse, leur capacité à identifier la salive d'un insecte prouve que les arbres, parmi d'autres spécificités, possèdent également un sens du goût. Les odeurs ont l'inconvénient de se diluer si rapidement dans l'air que leur rayon d'action est souvent inférieur à 100 mètres. Ce défaut est néanmoins contrebalancé par un double champ d'intervention. La diffusion du signal d'alerte au sein de l'arbre étant très lente, utiliser la voie des airs permet à l'arbre de franchir de grandes distances en peu de temps et ainsi de prévenir beaucoup plus vite les parties de son corps éloignées de plusieurs mètres. L'appel à l'offensive antiparasite n'a souvent même pas besoin de cibler une espèce. Le monde animal perçoit tous les signaux chimiques émis par les arbres et sait qu'une attaque est en cours et à quelle espèce appartiennent les agresseurs. Quiconque est friand des petits organismes à l'œuvre se sent irrésistiblement attiré. Les arbres sont toutefois capables de se défendre seuls. Les chênes envoient des tanins amers et toxiques dans leur écorce et leurs feuilles. Si les ravageurs ne sont pas exterminés, au moins cela transforme-t-il la succulente salade en verdure immangeable. Les saules obtiennent le même résultat en fabriquant de la salicyline, aux effets tout aussi destructeurs. Chez les insectes, pas chez nous autres humains, où une tisane d'écorce de saule, ancêtre de l'aspirine, atténue au contraire les maux de tête et la fièvre. Ce système de défense prenant du temps à se mettre en place, le bon fonctionnement du réseau d'alerte précoce est déterminant. Les vents évitent de se reposer sur la seule voie des airs, qui ne garantit pas que tous les voisins aient vent du danger. Ils préfèrent assurer leurs arrières en envoyant aussi leur message aux racines, qui relient tous les individus entre eux et travaillent avec la même efficacité, qu'il pleuve ou qu'il vente. Les informations sont transmises chimiquement, mais aussi, ce qui est plus surprenant, électriquement, à la vitesse d'un centimètre par seconde. Comparé à la vitesse de diffusion au sein du corps humain, c'est d'une extrême lenteur. Mais il existe aussi dans le règne animal des espèces comme les méduses ou les vers qui ne sont guère plus rapides. Dès qu'ils ont connaissance de la nouvelle, tous les chênes environnants mettent à leur tour de grandes quantités de tanins en circulation dans leurs vaisseaux. Les racines d'un arbre s'étendent sur une surface qui dépasse de plus du double l'envergure de la couronne. Il en résulte un entrelacement des ramifications souterraines qui crée autant de points de contact et d'échange entre les arbres. Ce n'est pas systématique, car une forêt héberge aussi des solitaires et des individualistes, réfractaires à toute idée de collaboration. Suffirait-il qu'une poignée de ronchons refuse de participer pour bloquer la diffusion de l'alerte ? Non, heureusement, car la plupart du temps, des champignons sont appelés à la rescousse pour garantir la continuité de la transmission. Ils fonctionnent sur le même principe qu'Internet, par fibre optique. La densité du système de filaments qu'ils développent dans le sol est à peine imaginable. Pour vous donner une idée, une cuillerée à café de terre forestière contient plusieurs kilomètres de ces filaments appelés hyphes. Au fil des siècles, un unique champignon peut ainsi s'étendre sur plusieurs kilomètres carrés et mettre en réseau des forêts entières. En transmettant les signaux d'un arbre à un autre par ses ramifications, il concourt à l'échange d'informations sur les insectes, la sécheresse du sol ou tout autre danger. Aujourd'hui, les scientifiques parlent même de « Wood Wide Web » pour évoquer l'activité de ce réseau forestier. La recherche sur le type et le volume d'informations échangées est encore embryonnaire. Des contacts entre espèces différentes, alors même qu'elles se considèrent comme concurrentes, ne sont pas exclus. Les champignons ont en effet une stratégie qui leur est propre. Ils peuvent être de très efficaces intermédiaires. Les défenses d'un arbre affaiblit ses mousses, et sans doute aussi son aptitude à communiquer. Sinon, comment expliquer que les insectes agresseurs ciblent leurs attaques précisément sur les individus fragiles ? Il n'est pas inconcevable qu'ils écoutent les arbres, cherchent à capter les signaux chimiques d'alerte et testent d'une morsure dans l'écorce ou d'une feuille la réactivité des individus silencieux. Parfois, le mutisme est imputable à une atteinte pathologique grave, mais il peut aussi résulter d'une rupture de l'association avec le réseau de champignons. Coupé de toute information, l'arbre ignore qu'un danger le menace, et s'est buffé à volonté pour les chenilles et les coléoptères. Les individualistes, mentionnés plus haut, sont tout aussi fragiles. Ils présentent certes des signes d'une parfaite santé, mais leur isolement les condamne à l'ignorance. Les arbres ne sont pas les seuls à communiquer ainsi entre eux. Les buissons, les graminées échangent aussi, et probablement toutes les espèces végétales présentes dans la communauté forestière. En revanche, dès que l'on pénètre dans une zone agricole, la végétation devient très silencieuse. La main de l'homme a fait perdre aux plantes cultivées beaucoup de leur aptitude à communiquer par voie souterraine ou aérienne. Quasi muettes et sourdes, elles sont une proie facile pour les insectes. Vous écoutez toujours Voix au chapitre sur Radio G, au 101.5 FM ou sur radio-g.fr, où je vous plonge aujourd'hui dans le livre « La vie secrète des arbres » de Peter Wohlleben. Bonne écoute. L'utilisation massive de pesticides par l'agriculture moderne trouve là une de ses explications. Les exploitants de terres agricoles gagneraient à s'inspirer du fonctionnement des forêts et à laisser un peu de naturel réinvestir les cultures de céréales et de pommes de terre, pour qu'elle recouvre la parole. Les arbres et les insectes ont d'autres raisons de communiquer que les seules tristes questions d'agressions parasitaires et de maladies. Les signaux agréables existent, et vous en avez sûrement déjà perçu, ou plus précisément senti. Je veux parler des messages olfactifs envoyés par les fleurs. Le parfum qu'elles émettent n'est ni fortuit, ni destiné à nous séduire. Les arbres fruitiers, les saules ou les châtaigniers diffusent des messages olfactifs pour attirer l'attention et inviter les abeilles à venir faire le plein chez eux. Le doux nectar que les insectes butinent est la récompense de la pollinisation qu'ils accomplissent à leur insu. La forme et la couleur des fleurs sont elles aussi des signaux destinés à les distinguer de toute la verdure du feuillage, un peu comme des panneaux publicitaires qui indiquent l'entrée d'un restaurant. Nous savons désormais que les arbres communiquent olfactivement, visuellement et électriquement, par l'intermédiaire de sortes de cellules nerveuses situées aux extrémités des racines. Mais qu'en est-il de l'émission de son, donc de l'ouïe et de la parole ? Quand j'affirme au début de ce chapitre que les arbres n'émettent aucun son, peut-être ne devrais-je pas être aussi péremptoire. Une équipe de chercheurs autour de Monica Gagliano, de l'Université Australie-Occidentale, a entrepris d'écouter le sol. Travailler sur des arbres en laboratoire étant mal commode, ils ont préféré porter leur étude sur des semis de céréales, plus aisés à manipuler. Et de fait, les appareils de mesure ont rapidement enregistré un léger craquement des racines d'une fréquence de 220 Hz. Des racines qui craquent, est-ce si extraordinaire ? Le bois mort aussi craque, ne serait-ce que lorsqu'il brûle. Le bruit constaté en laboratoire avait cependant de quoi interpeller. En effet, les racines des germes non impliquées y réagissaient. Dès qu'elles étaient exposées à un craquement de 220 Hz, les pointes s'orientaient dans la direction du bruit. Cela signifie que les graminées perçoivent cette fréquence. En d'autres mots, qu'elles entendent. Les végétaux échangeraient des informations par ondes sonores ? L'idée ouvre de formidables perspectives. Communiquer par ondes sonores, nous savons le faire. Pour le coup, mon imagination s'emballe. Quel bouleversement si nous avions accès à ce que des êtres, des chênes ou des pins ressentent, si nous pouvions comprendre ce qu'ils disent. Nous n'en sommes malheureusement pas encore là. L'exploration de ce domaine scientifique n'en est qu'à ses balbutiements. Il n'empêche, lors d'une prochaine excursion en forêt, si vous percevez de légers craquements, pas sûr que ce soit le seul fait du vent. Qu'est-ce qu'un arbre ? Qu'est-ce qui est arbre et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Le dictionnaire définit l'arbre comme un végétal ligneux possédant un tronc d'où partent des branches. La tige principale doit être dominante et présenter une croissance en hauteur constante. À défaut de tronc unique, le végétal n'est pas un arbre mais un arbrisseau, et ce qui ressemble à plusieurs petits troncs partant d'une souche commune est en réalité un ensemble de petites branches. Maintenant, qu'en est-il de la taille ? Je suis toujours déconcertée quand je vois des reportages sur les forêts du bassin méditerranéen, qui pour moi ressemblent plutôt à des accumulations de broussailles. Les arbres ne sont-ils pas des êtres majestueux à l'ombre desquels nous nous sentons tout petits ? Il est vrai que j'ai fait des séjours en Laponie, où j'ai aussi rencontré des spécimens qui m'ont donné l'impression exactement inverse. Ces végétaux qui ont le pouvoir de vous transformer en Gulliver chez les Lilliputiens sont les arbres nains de la toundra. Ils sont si petits, certains à 100 ans dépassent à peine 20 cm, que les randonneurs les piétinent allègrement. La botanique ne les considère pas comme des arbres, pas plus que le bouleau arbustif, ainsi que son nom pouvait le laisser supposer. Ce dernier développe pourtant des troncs qui peuvent atteindre 3 mètres de hauteur, quoiqu'il se contente le plus souvent d'un petit mètre 50. Ce qui sans doute explique qu'il ne soit pas pris au sérieux. Si l'on appliquait les mêmes normes aux petits êtres ou aux sorbiers des oiseleurs, ils ne seraient pas considérés comme des arbres non plus. Sans compter qu'à force d'être broutés par des grands mammifères comme les chevreuils ou les cerfs, ils présentent pendant des dizaines d'années l'aspect de petits buissons très ramifiés d'une cinquantaine de centimètres de haut. Et quand un arbre est coupé, meurt-il ? Qu'en est-il par exemple de cette souche multicentenaire évoquée au tout début de ce livre que ses congénères maintiennent sous perfusion pour qu'elle ne meure pas ? Est-ce un arbre ? Si ce n'en est pas un, qu'est-ce que c'est ? L'affaire se complique encore quand la souche forme un rejet. Et cela est d'autant plus fréquent que dans de nombreuses forêts, les feuillus ont longtemps été exploités par les charbonniers qui les coupaient pour fabriquer du charbon de bois. Les souches ont formé des rejets qui constituent aujourd'hui, des siècles plus tard, la base d'une majorité de nos forêts de feuillus, notamment de chênes et de charmes. La méthode consistait à couper et à laisser repousser les rejets une quinzaine d'années environ avant de les couper à nouveau, de sorte que jamais les arbres n'atteignaient une grande ampleur. À l'époque, cette pratique du taillis était dictée par la pauvreté des populations qui ne pouvaient pas se permettre d'attendre que les arbres grossissent. Les formes en CP que vous pouvez rencontrer aujourd'hui en forêt, en sont les vestiges. De même que les renflements globuleux à la base des pieds-mères, signe d'une prolifération des tissus due à l'abattage régulier des rejets. Mais ces formes sont-elles de jeunes arbres ou de très anciens spécimens ? D'ancestreux épicéas de la province suédoise de Dalecarlie ont fait l'objet d'études visant à répondre à cette question. Le sujet le plus âgé a développé une sorte de buisson aplati qui forme comme un tapis autour d'un unique petit tronc. L'ensemble appartient à un individu dont l'âge de la souche a été estimé au carbone 14. Le carbone 14 est un isotope radioactif du charbon qui est produit en permanence dans l'atmosphère, puis se désintègre lentement. Son rapport avec le carbone est constant. Présent dans une biomasse inactive comme le bois, la désintégration se poursuit tandis qu'il ne reçoit plus de nouveaux carbones radioactifs. Il en résulte que plus la part de carbone 14 est réduite, plus la matière organique doit être vieille. La datation de l'épicéa au carbone 14 a révélé l'âge à peine croyable de 9550 ans. Le bout d'extrait sur le caractère des arbres est un cadeau qui cherche à masquer le fait que l'autre chapitre n'est pas assez long pour l'émission. Peut-être que les arbres ne parlent pas, mais ils sont capables de communiquer à leur façon, et je trouve ça fascinant. La semaine prochaine, nous nous intéresserons à ce qui définit précisément un arbre à travers un nouveau chapitre. Nous étions donc sur le livre « La vie secrète des arbres » de Peter Wolben. Si vous souhaitez retrouver cette émission, elle sera disponible sur radio-g.fr, rubrique « Voix au chapitre ». En attendant, restez connectés sur Radio G pour l'émission Samedi Souvenir de 10h à midi. Il est temps de tourner la page pour aujourd'hui. Bon week-end.
Radio G, 101.5 FM.
You're only funky as your last cut, but ain't no use in packing what is wrapped up. They question why I'm prepping for disaster. I guess I'm still affected by the last one. No need to make excuses on behalf of. Sometimes I just do stupid shit for the reaction. To blame it all on foolishness that I would rather. But if we speaking truthfully, I'm just an asshole. God won't give me more than I can handle. Rich, but I can't afford to have a scandal. This isn't what we wanted, but I'm sick and it's senseless. To try to front like I can't stand you. Found another one and that's cool. But I'm the only one who has you. If there's something that I can do, tell me what I make it and